Radio Prague, les informations.
Mirek Topolánek espère soumettre l'installation de la base radar américaine au vote du Parlement en avril. L'augmentation des investissements de l'industrie dans la science et la recherche est une tâche d'actualité. Jens Werner a commencé sa campagne pour la présidentielle dans les régions. À l'occasion de la visite officielle ce jeudi du Premier ministre polonais Donald Tusk à Prague, le chef du gouvernement tchèque Mirek Topolánek a déclaré qu'il espérait soumettre l'installation de la base radar américaine au vote du Parlement en avril. Donald Tusk, quant à lui, a noté que la Pologne et la République tchèque avaient la même position vis-à-vis des États-Unis. La Pologne est en effet également concernée par les projets américains. La Tchéquie et la Pologne s'opposent à la création à Berlin d'un centre de documentation consacré à l'histoire de l'expulsion. Voilà le point sur lequel Mirek Topolánek et Donald Tusk se sont mis également d'accord. Les écoles supérieures et les institutions de recherche ont pour tâche de puiser davantage de moyens dans la sphère industrielle aux fins de la science. C'est ce qui a été constaté au forum d'innovation qui a eu lieu à Prague. Selon les décideurs politiques et les experts, il s'agit également d'accélérer la remise d'acquisition entre les universités et le secteur de production. Les leaders des trois partis de la coalition gouvernementale se sont réunis au siège du gouvernement pour décider si Jiří Čunek, chef des chrétiens-démocrates, devait retourner au sein du gouvernement. Jiří Čunek avait quitté son poste de ministre de l'aménagement territorial il y a plus de 2 mois en raison d'une affaire de corruption et pour avoir prétendument abusé du régime des allocations sociales. Martin Bursík, chef du parti des Verts, souhaite reporter la discussion concernant le comeback de Čunek à la période après l'élection présidentielle prévue pour le 8 février. Le social-démocrate Lubomír Zaorálek, vice-président de la Chambre des députés, affirme que le coût des Jeux olympiques d'été que Prague souhaite organiser en 2016 pourrait atteindre jusqu'à 500 milliards de couronnes. Cette somme serait garantie par le gouvernement qui avait accordé mercredi des garanties juridiques pour la candidature de Prague. L'Institut culinaire de Prague, qui vient d'ouvrir ses activités dans le quartier de Suvdol, se propose de renouer avec les traditions centenaires de l'art culinaire tchèque. L'Institut a en outre pour objet d'élever le niveau de la gastronomie dans les pays tchèques, déclare son fondateur Roman Vaněk. À cette fin, des maîtres de la gastronomie locale et mondiale seront invités afin de former les adeptes intéressés. Météo ce vendredi, le jour de fête des Bohdana, le ciel en Tchéquie sera nuageux, à couvert avec de la pluie par endroits. Les routes sont praticables, mais le verglas complique la circulation, notamment sur le plateau tchéco-morave. C'était le journal présenté par Alena Gebertová.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinsky.
Heureux de vous retrouver à l'écoute de notre magazine d'actualité après le bulletin d'information d'Alena. Nous commencerons par une affaire à rebondissement qui fait la une de la presse tchèque, celle d'une femme de 33 ans qui se faisait passer pour un enfant à des fins obscures et qui est impliquée dans un cas de mauvais traitement de mineurs. Ce sera Jarka Gisubelova qui nous présentera le sujet. Alexis Rosenzweig nous parlera de la visite du Premier ministre polonais à Prague. Si le projet de loi adopté par le cabinet concernant l'impôt sur les véhicules d'entreprise passe au Parlement, cet impôt sera fixé selon l'âge du véhicule. Pour terminer, nous reviendrons à la partition de la Tchécoslovaquie et ce qu'elle a coûté avec Omar Mounir, auteur d'un livre sur ce sujet, dans un entretien réalisé par Václav Richter. Bonne écoute à toutes et à tous. À la une des médias tchèques, l'affaire d'une jeune femme de 33 ans, Barbora Škrlová, qui change d'identité en se faisant passer pour un enfant, d'abord pour une jeune fille de 13 ans, impliquée dans une affaire d'enfant maltraité, puis pour un garçon de 13 ans, retrouvé par la police en Norvège. Mercredi soir, la femme à double identité a été extradée en République tchèque et mise en détention préventive, où les psychologues examineront son état psychique. Jarka Gisubelová.
L'incroyable histoire de la jeune femme diplômée d'études supérieures commence en 2003 lorsqu'elle arrive dans la famille de Clara Mauer en tant que Anna, jeune fille de 13 ans abandonnée. Sa vraie identité est dévoilée peu de temps après dans le cadre de l'affaire des deux fils maltraités de Clara Mauer. Les trois enfants sont placés dans un foyer pour enfants abandonnés, mais la nuit, Anna s'enfuit et l'ADN révèle qu'en réalité, elle n'existe pas. Barbara Shkrlova, la femme de 32 ans qui a pris son identité, disparaît. En juin dernier, elle fait une brève apparition à l'ambassade tchèque à Copenhague où elle dépose une enveloppe contenant des échantillons d'ADN et disparaît à nouveau. Le mystère continue. Un rebondissement se produit au milieu du mois de décembre dernier. Un garçon de 13 ans répondant au nom d'Adam appelle une ligne téléphonique spéciale pour les enfants maltraités pour annoncer qu'il se trouve dans un foyer pour enfants à Oslo et qu'il avait été maltraité par son père. La ligne contacte le ministère des Affaires étrangères qui prévient la police. Susanna Opletalová, son porte-parole.
L'ambassade tchèque à Oslo examinait cette affaire depuis le mois de décembre, après avoir été averti par la ligne téléphonique spéciale. Mais entre-temps, la police norvégienne a ouvert l'enquête car le garçon recherché a fui le foyer. Et lorsqu'il a été retrouvé le 5 janvier, il s'est avéré que ce n'était pas un garçon de 13 ans, mais une femme de 33 ans, Barbara Shkrlova.
Réfugiée en Norvège, la femme avait une fois de plus changé d'identité. Elle s'était rasée la tête, avait maigri et avait l'air de quelqu'un souffrant d'une maladie. Pourquoi a-t-elle pris deux fois l'identité d'un enfant? Les hypothèses sont nombreuses, la maltraitance, les pressions psychologiques ou l'activité d'une secte appelée Mouvement du Graal qui contraint ses membres à s'incarner dans une autre personne. On écoute l'avis du psychologue Zdeněk Bašný.
Toute cette affaire est enveloppée de mystères où cette jeune femme joue un rôle bizarre qu'il est en ce moment difficile à déchiffrer. Si je devais diagnostiquer de quoi il s'agit, je pencherais vers un trouble de la personnalité très grave.
Dans la soirée de mercredi à jeudi, Barbara Shkrlova était extradée d'Oslo en République tchèque, où elle est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour atteinte au droit d'autrui. Jeudi matin, le juge a décidé de la placer en détention préventive, où les psychologues examineront son état psychique. Shkrlova sera aussi entendue comme témoin dans l'affaire des enfants maltraités. Selon certaines sources, trois autres personnes ont été extradées avec elle, dont le dramaturge Martin Ferner, qui l'avait amené en Norvège sous l'identité de son fils, mentalement malade, et qui est l'ami de l'homme qui avait envoyé la jeune femme sous l'identité de la petite Anna dans la famille de Clara Mauer. Le cercle se referme-t-il? Sûrement pas, car tous ces mystères attendent seulement d'être élucidés dans cette affaire sans précédent en République tchèque.
Le Premier ministre polonais Donald Tusk était à Prague ce jeudi pour une visite officielle au cours de laquelle il a rencontré le président tchèque Václav Klaus et son homologue Mirek Topolánek. Le bouclier antimissile que Washington souhaite installer en Pologne et en République tchèque était évidemment l'un des principaux sujets abordés au cours de cette visite, comme nous le confirme Alexis Rosenzweig.
Je recommanderais aux journalistes tchèques et polonais d'apprendre enfin leur langue réciproque pour ne pas qu'on perde bêtement du temps à traduire parce que nous deux nous comprenons mutuellement. C'est la formule par laquelle le chef du gouvernement tchèque a tenu à souligner qu'il était sur la même longueur d'onde que le Premier ministre polonais concernant notamment ce projet de bouclier antimissile américain. Ni l'un ni l'autre ne veulent précipiter les choses et Mirek Topolánek s'est refusé à donner une date précise pour la fin des négociations avec Washington. On l'écoute.
Dans l'idéal, nous pourrons transmettre les accords au Parlement aux fins de ratification après le sommet de l'OTAN à Bucarest en avril ou plus tard. C'est l'hypothèse idéale, ce ne sera pas forcément comme ça parce qu'il y a des facteurs extérieurs et il faut encore que nos conditions soient remplies, que les négociations soient achevées et d'autres facteurs peuvent encore retarder tout ça. Donc, pas d'échéance précise. La formule qui reste valable est « la qualité est plus importante que la vitesse ».
Termin si nedáváme, platí ta věta, že kvalita je důležitější jak rychlost.
Pas trop vite, un avis partagé par Donald Tusk qui semble vouloir imposer des conditions plus contraignantes aux Américains que son prédécesseur à la tête du gouvernement polonais, M. Kaczynski. Nous ne voulons pas jouer la montre, l'essentiel est d'obtenir gain de cause dans les négociations pour la partie polonaise aussi bien que pour la partie tchèque, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre polonais avant d'ajouter que la fin de ces négociations n'était pas liée à la fin du mandat de l'actuel président américain George W. Bush. Rappelons que Washington veut déployer d'ici à 2012 10 intercepteurs de missiles en Pologne et une station radar en République tchèque, officiellement pour anticiper une éventuelle menace de la part d'États voyous tels que l'Iran. Un projet auquel les opinions publiques des deux pays semblent hostiles. Selon le plus récent sondage réalisé ici, 70% des Tchèques ne souhaitent pas voir le radar américain installé en Bohême.
Le gouvernement tchèque vient de décider d'un changement important en matière d'imposition des véhicules d'entreprise. Les réductions de ce qui est appelé impôt routier en Tchéquie ne seront plus calculées en fonction des normes d'émission euro, mais en fonction de l'âge des véhicules. L'impôt routier touche presque tous les véhicules d'entreprise. Il existe plusieurs exceptions, et ce sont celles-ci qui ont été la cause du rejet par deux fois de l'amendement à la loi. En fin de compte, le cabinet a accepté la proposition des Verts d'exonérer de l'impôt routier d'autres véhicules que les électromobiles. C'est le Premier ministre Mirek Topolánek qui nous présente la liste de ces véhicules.
Nous avons ajouté les véhicules qui ont une propulsion hybride, donc qui combinent un moteur électrique et un moteur à explosion, qui utilisent le gaz pétrole liquide, GPL, le gaz naturel comprimé, GNV, et les véhicules dont le moteur consomme un mélange d'essence et d'éthanol 85.
D'après le ministre de l'Environnement, Martin Bursík, cela devrait conduire à une modernisation du parc automobile tchèque, surtout avec le changement radical concernant les réductions de l'impôt routier. L'amendement stipule que les véhicules de moins de 3 ans bénéficieront d'une réduction de 48%, alors que les véhicules mis en service avant 1990 devront payer 25% de plus, aujourd'hui seulement 15%. Rappelons que l'âge moyen des camions tchèques est de 16 ans, l'un des plus élevés dans l'Union européenne. Alors que Martin Šprignár, secrétaire général de l'association des transporteurs routiers tchèques Česmad, pense que l'amendement à la loi est une bonne chose, le président de l'Union des patrons, lui, Bedřich Danda, n'est pas du même avis.
Ces camions sont utilisés aussi par diverses petites entreprises, par des coopératives qui ne disposent malheureusement pas d'assez de moyens financiers pour rajeunir leur parc automobile. La loi ne conduira qu'à une nouvelle pression économique sur les petites et moyennes entreprises qui, de toute manière, ne pourront pas acheter de nouveaux véhicules. On nous fait payer des charges de plus en plus lourdes et cela ne nous plaît pas.
C'est aussi l'avis du commentateur du quotidien national Lidovanovini, Martin Weiss, qui estime que l'amendement à la loi sur l'impôt routier risque de conduire certaines petites entreprises à la faillite et que le gouvernement a peut-être succombé à la pression des fabricants et importateurs de voitures et camions. Tout n'est pas encore dit, car l'amendement doit encore être examiné et adopté par les deux chambres du Parlement et signé par le chef de l'État. Le 21 décembre dernier, la Tchéquie et la Slovaquie entraient ensemble dans l'espace Schengen et le 1er janvier dernier, nous nous sommes rappelés le 15e anniversaire de la partition de la Tchécoslovaquie, état commun des Tchèques et des Slovaques. Ces deux dates, marquant des événements majeurs de l'histoire de la Tchéquie et de la Slovaquie, ont fait réfléchir Omar Mounir, qui s'est interrogé sur le coût de la construction de la frontière entre les deux pays. Opération qui allait se révéler pratiquement inutile après l'entrée des Tchèques et Slovaques dans l'espace Schengen. Omar Mounir, auteur du livre « Partition de la Tchécoslovaquie », a résumé l'aspect économique de cette opération au micro de Václav Richter.
Le traçage des frontières, ou plus exactement le retraçage des frontières, a duré de janvier 1993 à décembre 1994, qui est la fin de la matérialisation de la frontière tchécoslovaque. Cela, ce tracé, s'est traduit dans les faits par une pause de 4609 bornes à peu près et la réalisation d'une étude qui a été soumise aux deux gouvernements une étude sur l'environnement géographique du tracé frontalier. Cette étude a été composée de 2000 documents qui totalisent un total de 25 kilos. Tout cela a coûté à peu près environ 5 millions parce qu'il a fallu des véhicules, il a fallu des spécialistes, il a fallu acheter des équipements spéciaux. Tout cela est par deux fois inutile. Inutile d'abord parce que le tracé des frontières était déjà fait. Ce n'est pas nécessaire, et même jusqu'à aujourd'hui, même dans la conjoncture actuelle, ça ne se vérifie pas. C'était déjà fait. Et c'était inutile parce que c'était fait pour 15 ans et on n'avait même pas besoin de le faire.
À combien sont revenus donc les postes frontières et leur aménagement ?
Les postes frontières, en revanche, auront coûté beaucoup plus cher. D'abord, il y a eu 13 postes douaniers à créer sur les routes et puis 7 autres postes douaniers à créer sur les lignes de chemin de fer. Le coût, par exemple, d'un poste sur route nationale, à l'époque, a été évalué à 75 millions de couronnes. Il a même coûté plus dans certains cas. Et sur autoroute, beaucoup plus cher, à 350 millions de couronnes. S'ajoute à cela l'aménagement de passages obligatoires dans les zones vertes, pour le contrôle des frontières, il a été estimé à un demi-milliard de couronnes qui ont été supportées par 3 ministères à l'époque. Et puis rien que pour la construction des parkings de frontières et l'élargissement des routes, le ministère des Transports va dépenser pendant 3 années, en 1993, 102 millions de couronnes, en 1994, 60 millions de couronnes et 50 millions de couronnes en 1995. À cela, il faut ajouter les nouvelles routes, les moyens de communication, c'est-à-dire tout ce qui est véhicule, téléphone, radio, fax, puis l'électrification, puis l'infrastructure hygiénique. Et je passe sur le coût du jalonnement des frontières, on l'a déjà dit. Plus, en fin de compte aussi, et c'est le plus important, le recrutement du personnel, des douaniers, des gardes frontières et des membres de la police étrangère. Alors, l'ensemble de ces dépenses est de l'ordre de 4 milliards 942 millions, ce qui correspond aujourd'hui à quelque 19 millions d'euros qui auraient pu, si les politiciens avaient un peu plus de sagesse, je dirais, de prévoyance, être tout simplement économisé de l'argent qui aurait pu aller dans des écoles, dans des dispensaires, etc.
Est-ce qu'il y a, d'après toi, donc un moyen politique ou autre pour éviter toutes ces dépenses ?
À partir du moment où on avait admis la partition de la Tchécoslovaquie, qu'on a créé deux États, il a fallu créer des frontières en conséquence. L'erreur qui a été commise, à mon avis, c'est un manque de prévoyance, c'est cette courte perspective des politiciens qui ont négligé cette échéance qu'est l'Union européenne, que tout le monde appelait de ses voeux les plus chers à l'époque. Et ça, je crois que c'est une erreur impardonnable à mettre, au passif de tous les politiques tchéco-slovaques, mais certainement au passif de certains politiciens slovaques. Je prends le risque de le dire.
Nous allons maintenant quitter l'actualité sur Radio Prague pour nous rendre dans le passé avec une nouvelle personnalité tchèque.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Explorateur polaire, aventurier, écrivain et narrateur exceptionnel, Jan Valtzl était un homme simple et inculte. Pourtant, il était doté d'une intelligence innée et doué d'un sixième sens qui semble manquer aujourd'hui à une grande partie de la population. L'objectif principal de celui qui fut appelé le chef blanc des Esquimaux était de vivre en paix dans la nature, éloigné des gens et ne dépendant que de sa propre personne. Jan Valtzl, qui plus tard ajouta à son nom la dénomination Esquimaux, est né le 15 août 1868 en Moravie. Sa mère, une jeune veuve énergique, tenait une épicerie, laiterie, pour gagner sa vie. Yann obtient son CAP de serrurier à l'âge de 16 ans et sur le coup part acquérir de nouvelles expériences à l'étranger. Il passe par Vienne, Gênes, en Bosnie-Herzégovine, Serbie, puis en Hongrie et en Roumanie. Au retour, il part au service militaire dont il revient 3 ans plus tard, dans sa ville natale en Moravie. Mais il n'a pas du tout envie de trouver une situation et encore moins de se marier. Yann n'est pas trop partisan de la vie sédentaire. Il a un esprit vagabond qui l'entraîne en nomade vers des destinations lointaines. Ainsi, il décide de faire le tour du monde et s'embarque sur un paquebot transocéanique. C'est en Chine qu'il apprend la mise en œuvre de la construction du chemin de fer transsibérien. Sans aucun doute, une expérience à tenter pour ce jeune homme à l'âme errante. Il part donc à Irkoutsk, centre de l'événement, où il participe à la construction du chemin de fer, en posant par exemple des rails et en effectuant des travaux très lourds. Et là encore, il ne tient pas en place. On ne saura jamais d'où vient cette force motrice qui le pousse à aller toujours plus loin encore, à vrai dire jusqu'au bout du monde. Yann Veltzl part en solitaire à travers les marécages, forêts vierges, la taïga, il traverse la toundra glacée et les rivières sibériennes. Un voyage de plusieurs milliers de kilomètres qui durera 3 ans et se terminera sur les bords de l'océan glacial arctique. C'est dans une grotte abandonnée par les Esquimaux que l'explorateur d'origine morave s'installe. Il se nourrit comme il peut. Il chasse, pêche, fait du commerce, cherche de l'or. Ainsi, il a vécu une bonne trentaine d'années dans l'Arctique, qu'il aimait et où il était particulièrement heureux. Il appréciait beaucoup la philosophie, les rites et le style de vie des Esquimaux. Vivant dans des conditions rigoureuses, les peuples arctiques sont très naturels et simples. Ils partagent la théorie que les êtres vivants, tout autant que les plantes, pierres et objets, possèdent une âme et une ombre. D'après eux, l'âme est immortelle et se rend après la mort au royaume des ombres. Les Esquimaux adoptèrent Yann Veltzl et l'appelèrent le chef blanc des Esquimaux. Le naufrage de son navire Seven Sisters lui fait perdre énormément d'argent et le décourage au plus haut point. Il décide de quitter la région polaire et de revenir en Europe. Pendant un certain temps, il vit à Hambourg, gagnant sa vie comme il peut, surtout en travaillant comme ouvrier journalier. Au cours de cette période, il réussit à faire publier pour la première fois ses impressions vécues dans le journal Lidové noviny à Brno. Le rédacteur de Lidové noviny, Rudolf Tesnohlídek, prend en charge le traitement des écrits de Veltzl et l'édition du livre intitulé « Yann Veltzl » qui paraît en 1928. Suivent 30 ans au nord d'or, histoire de glace, sur la trace des trésors polaires, les ennuis du chef des Esquimaux en Europe. Les livres de Yann Veltzl ont été traduits en plusieurs langues, par exemple en allemand, français, danois, finlandais, anglais, norvégien et en suédois. Il est intéressant de noter que lui-même ne les a jamais lus. Pour lui, c'était surtout une source d'argent qui lui permettrait de répartir dans les régions arctiques qui lui manquaient. Mais il approchait de la soixantaine et son énergie baissait et petit à petit se perdait. Sa santé également était loin d'être de fer. Elle détériorait. Pourtant, il quitte tout de même sa patrie, mais pour des raisons de santé justement, il s'installe à Dawson au Canada. Une petite ville au confluent des rivières Yukon et Klondike. Ce fut dans ces lieux, aux confins de la nature sauvage, qu'il a vécu en solitaire, mais probablement heureux, plus de 20 ans. Mi-août 1951, Jan Veltzl fut pris d'un malaise. Il s'en alla à l'hôpital St. Mary's Hospital pour se faire soigner. Mais quelques jours après, précisément le 15 août 1951, l'explorateur Morave décéda.
C'est ainsi que nous allons prendre congé de vous, chers amis, en espérant toutefois vous retrouver à l'écoute de Radio Prague, sur les ondes ou notre site web. À bientôt.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.